France Info.
Bonsoir à tous, bienvenue dans les informés de France Info, une heure de débat sur l'actualité de ce week-end. Vous êtes avec nous sur France Info, à la radio, à la télé, sur le canal 27 de la TNT et sur franceinfo.fr. Au sommaire ce soir, le match de la gauche, Benoît Hamon en meeting à Bercy. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon devant ses partisans, place de la République hier à Paris. Concurrent mais pas adversaire. Le 11 de la présidentielle, 11 candidatures validées hier par le Conseil constitutionnel. Le terrorisme dans la campagne après l'attaque d'Orly hier et le débat sur l'état d'urgence relancé. Et puis le premier débat télé demain soir entre 5 candidats. La télé fera-t-elle cette élection ? Les informés de France Info ce soir, Cécile Amar, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste à l'Obs, François Hernenwein, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur, rédacteur en chef de La Croix, Laurent Guez, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de la rédaction du Parisien Magazine et David Bouhery, bonsoir.
Bonsoir.
Du service économie et sociale de France Télévisions. Comme François Hollande, entre les deux tours de la présidentielle 2012, Benoît Hamon, le candidat socialiste, avait choisi Bercy cet après-midi pour relancer une campagne qui patine. Le Hollande de 2012 avait un adversaire, le monde de la finance. Pour Benoît Hamon, 2017, c'est le parti de l'argent.
Dans cette campagne polluée par l'argent, ils pensent à la taille de leur château, de leur compte en banque ou peut-être de leur costume. Je ne pense qu'à la grandeur de notre pays. Ils ne pensent qu'au pouvoir, je ne pense qu'à mon devoir. Ils sont candidats pour réaliser leur destin ou assurer leur avenir. Je serai président pour préparer notre futur et celui de nos enfants.
Voilà, extrait d'une heure et demie du discours de Benoît Hamon cet après-midi dans un Bercy comble. 25 000 personnes, ont dit les organisateurs, des drapeaux bigarrés et une minute de silence en hommage aux victimes du terrorisme. Son discours cet après-midi est-il, selon vous, de nature à relancer cette campagne difficile pour l'instant, Cécile Amar?
Je suis pas sûre qu'un meeting, ça relance une campagne. Un meeting, ça sert toujours à souder vos militants, à ce que les gens qui sont dans la salle sont toujours extrêmement contents. Quand ils rentrent chez eux, voilà, ça sert à ça. C'est difficile de relancer une campagne. Si sa campagne patine, c'est pour des raisons politiques liées à la primaire, liées au quinquennat, et vous les effacez pas, même par un meeting réussi, même par une salle comble. Voilà. Alors le pari de Benoît Hamon depuis le début est que ce meeting et le débat de demain va tout changer. Et c'est ce qu'il dit. Il dit que la campagne commence aujourd'hui. C'est pas vrai que la campagne a commencé aujourd'hui. Hélas pour lui, mais...
Est-ce que ça peut être son Bourget, en quelque sorte, le Bourget de François Hollande?
Il y a une vraie différence, parce que...
David Bouhery.
Parce que là, quand on regarde le fond du discours, on reste sur un discours qui est quand même très très proche de tout ce qui avait déjà été dit lors de la primaire. Et qu'on n'est donc pas dans un discours de rassemblement du camp. De toute façon, les deux fameuses gauches irréconciliables...
Il a parlé à son camp cet après-midi pour vous, David Bouhery?
Oui, surtout. Je veux dire, la seule petite dimension qu'il rajoute, c'est le Made in France qui était prôné par...
Arnaud Montebourg.
Arnaud Montebourg,
lors de la
primaire.
Je suis le candidat de la feuille de paie, il a dit aussi. Hein, c'était une expression employée par Arnaud Montebourg.
Reprendre l'argument du Made in France n'est pas vraiment une surprise. Donc, je veux dire, et puis, en plus, ça arrive aujourd'hui avec Manuel Valls qui, lui, de son côté, tire à boulet rouge. Donc, on voit que les deux gauches sont définitivement irréconciliables.
Voilà, tribune de Manuel Valls ce matin dans le journal du dimanche qui dénonce une gauche qui promet tout et son contraire, qui signe des chèques en bois et qui fait comme si le monde autour n'existe pas. Fin de citation. François Hernenwein sur la prestation de Benoît Hamon.
Écoutez, il a puisé dans l'histoire du socialisme français ses heures de gloire pour essayer de prolonger le récit à l'occasion de la présidentielle. Cet aspect-là était effectivement assez classique, mais s'il compte sur un meeting, et ça a été bien dit tout à l'heure, pour réamorcer la pompe ou l'amorcer vraiment, je ne pense pas qu'il y arrivera. Il n'y avait, dans son propos, outre la défense de son camp, ce qui est logique, il n'y avait pas d'innovation réel, d'élan programmatique qui nous projetait un peu dans l'avenir. Il fait une campagne sur le socle de la gauche, mais il ne tire pas son camp dans...
Le Hamon de la présidentielle, c'est le Hamon de la primaire, c'est ce que vous
dites. C'est l'impression qu'on a pu avoir, et puis... Mais c'est l'effet de la primaire, ça. Dans chacun des camps, les candidats sont marqués à la polarité extrême.
C'est quoi
son
plus gros problème à Benoît Hamon, Laurent Guez? C'est l'argument du vote utile, c'est la concurrence de Jean-Luc Mélenchon, c'est la division du PS?
Il a beaucoup de problèmes, mais je voudrais juste dire une chose pour commencer. C'est quand même que je suis frappé par les foules que déplace cette campagne. Je ne sais pas si quelqu'un s'est amusé à compter, mais on est encore à plusieurs semaines du premier
tour.
Cinq semaines. Et il y a des chiffres qui sont frappants. Là, il fait ça le comble. On parlera tout à l'heure de Mélenchon qui déplace des dizaines de milliers, plus de 100 000 personnes. Et on se souvient, il y a deux semaines au Trocadéro, il y a quelques semaines encore à Lyon, il y en avait trois en même temps, pendant le même week-end. Ils font à chaque fois ça le comble. Donc franchement, je ne sais pas si ça suffit à relancer la campagne de l'un ou la campagne de l'autre. Mais pour ceux qui pensent que cette campagne n'est pas intéressante, moi je suis frappé par le nombre de Français qui sortent de chez eux, qui pourraient regarder la télévision, suivre les réseaux sociaux ou que sais-je encore, lire nos journaux, et qui vont sur le terrain.
Mais là, ce sont les militants, ce que disait Cécile Hamar tout à l'heure. Il faut aller au-delà de ça.
Est-ce qu'il n'y en a jamais eu autant qui se déplacent par curiosité, peut-être, je ne sais pas, parce qu'il y a sans doute une part d'indécis jamais atteinte. Mais les gens vont voir sur le
terrain. Ça t'est dit tout à l'heure, il ne parle qu'aux convaincus. Le problème d'une présidentielle, c'est rassembler. C'est très bien d'avoir autour de soi tous ceux qui partagent votre vision. Tous ceux qui sont d'accord avec vous. Le problème d'une présidentielle, c'est pas de rassembler des convaincus, c'est de rassembler les Français. Et ça, c'est un exercice bien plus compliqué.
Sur la question du problème de Benoît Hamon, le vote utile, la division du PS, Jean-Luc Mélenchon, dont on va parler dans quelques minutes.
Juste pour poursuivre, c'est vrai que a priori, si on avait mis au point les primaires, c'était justement pour qu'il y ait le débat dans un camp avant de rassembler pour l'élection présidentielle.
Là, le débat se poursuit.
On n'a pas vu ça là à gauche aujourd'hui.
On poursuit cet échange dans deux minutes, juste après l'info avec Stéphane Milhomme à 20h10.
Contre les violences policières, 7000 à 7500 personnes manifestées cet après-midi de Nation à République à Paris. Quelques heures ont éclaté en fin de défilé. Près d'un millier de personnes positionnées se sont masquées et ont commis des dégradations, lancé des cocktails Molotov. Deux gendarmes sont légèrement blessés. Le grand meeting de campagne de Benoît Hamon à Paris-Bercy, le candidat socialiste revendique 25 000 participants. Outre le revenu universel, il souhaite 40 000 postes d'enseignants supplémentaires s'il est élu. Et puis, la France ne doit pas être le musée des projets industriels dépassés, dit-il. Nucléaire, diesel, agriculture intensive. Le corps du troisième snowboarder, emporté par une avalanche à Val-Fréjus, a été retrouvé deux semaines après la coulée de neige. Un employé du service des pistes de la station Savoyarde et son chien d'avalanche ont localisé le corps du jeune néerlandais. Ils ont profité également de la fonte des neiges. En Allemagne, Martin Schulz, élu à l'unanimité à la tête du SPD, 100% des voix, c'est du jamais vu dans l'histoire du Parti social-démocrate allemand. Il est le challenger de la chancelière Angela Merkel et va pouvoir préparer les élections législatives qui se dérouleront en septembre. Et puis Monaco, plus fort que Caen, 3-0. Cet après-midi, les Monégasques bien accrochés en tête de Ligue 1. À 21h, le PSG, deuxième du championnat, accueillera Lyon, le quatrième. Une victoire 3-0 pour cette fois Saint-Étienne, pardon, qui s'est imposé, lui, 1-0, et c'était face à Dijon cet après-midi.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jérôme Cadet.
Les informés de France Info ce soir, Laurent Guez, Le Parisien Magazine, David Bouhery, France Télévisions, Cécile Hamar, L'Obs et François Hernanwein de La Croix. Je voulais qu'on poursuive sur Benoît Hamon, vous ne m'avez pas répondu, c'est quoi son principal problème? C'est l'appel au vote utile Emmanuel Macron pour battre Marine Le Pen, ce sont les divisions du Parti Socialiste, on les a encore vues ce matin avec la tribune de Manuel Valls, ou bien c'est la concurrence de Jean-Luc Mélenchon, offensif hier Place de la République, on va en parler. François Hernanwein.
Il est en sandwich entre Macron et Mélenchon. Il est donc en position centrale et c'est une position assez difficile à tenir.
Centrale de quoi? Il n'est vraiment pas en position centrale. Je pense que son problème, c'est la primaire. Son problème, c'est la primaire et ça sera le problème de la gauche et peut-être de la droite. Il est prisonnier d'un positionnement de primaire et il est obligé d'y rester.
Donc il faudra faire le bilan un jour de l'effet pervers des primaires. Ça, c'est une autre discussion. Mais entre Mélenchon et Macron, il est en position centrale. Et donc, il doit grignoter de chacun des côtés.
C'est ce qu'il va gagner d'un côté, il va perdre de l'autre, voilà. C'est ça,
En tout cas, le problème de son équipe, de lui et de des électeurs socialistes, enfin de ceux qui ont voté François Hollande en 2012, c'est effectivement le vote utile. C'est-à-dire qu'on est dans une situation pour cette gauche-là très particulière, puisque le Front National est très très haut, que la droite dite républicaine pose un certain nombre de questions pour tous ces électeurs, parce que c'est, on le sait, si ça avait été Alain Juppé, la question ne se posait pas pareil. Donc voilà, donc ces électeurs sont maintenant devenus des électeurs stratèges, et alors que le premier tour est classiquement un endroit où vous défendez vos idées et vous vous posez normalement la question de l'utilité au second, cette élection-là, les gens ont peur, à gauche, d'un second tour Fillon-Le Pen, donc ils se disent il faut d'abord voter Macron pour pouvoir s'assurer ce vote, de la même façon qu'il y a eu cette histoire qui jusque-là n'était jamais arrivée, d'électeurs de gauche qui sont allés voter à la primaire de la droite sur le même réflexe, en se disant on va choisir celui ou celle pour laquelle on voudra voter contre Le Pen.
David Bouyrie.
Mais c'est vrai, vous disiez qu'il était prisonnier du coup de la primaire, mais du coup ça montre l'échec de la primaire, parce que la logique était de choisir la personne dans son camp pour ensuite arriver à rassembler son camp avant le premier tour.
Et c'est très frappant parce que...
Là, le problème, en l'occurrence, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'a pas participé à cette primaire. Le problème du Parti Socialiste.
Il a bien fait. Mais ce qui est très frappant, c'est que la première primaire de l'histoire, à ma connaissance, la première, c'était en 2006. Elle n'était pas ouverte. Hein, elle était réservée aux adhérents du Parti Socialiste, même si certains avaient adhéré juste avant. Et là, la plupart des électeurs de cette première primaire, bizarrement, avait intégré le vote réel. C'est-à-dire qu'ils votaient pour le mieux, ou la mieux en l'occurrence, Ségolène Royal, qualifiée. Cette fois-ci, ce n'était pas le cas. Ils ont voté pour le noyau dur. Et donc, je ne pense justement que Benoît Hamon n'est pas du tout en position centrale au Parti Socialiste.
Pas au Parti Socialiste, mais dans l'ensemble.
Les électeurs. C'est son camp. C'est le camp qu'il est censé représenter, quand même.
Alors, on va poursuivre sur ce jeu des comparaisons 2012-2017. Il est assez éclairant. Je parlais du Bourget de François Hollande de 2012, le Bercy de Benoît Hamon. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon en 2012 avait choisi la place de la Bastille, symbole des révolutions, des luttes sociales pour s'exprimer. Celui de 2017 lui a rassemblé ses partisans hier, place de la République avec une marée de drapeaux français et une promesse, celle d'établir une 6e République.
Nous ne sommes pas là pour un personnage, mais pour un programme. Que ceci n'est pas seulement un événement extraordinaire à l'intérieur d'une campagne électorale comme jamais on en a vu. Ceci est une manifestation politique, une insurrection citoyenne contre la monarchie présidentielle.
Voilà, Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, le tribun, hein, on le voit dans son élément au pied de la statue de la République, devant peut-être 130 000 personnes, c'est ce qu'il a dit, plus sûrement entre 80 et 100 000, mais enfin, ça fait quand même du monde. Vous étiez sans doute frappé par la foule, Laurent Guez, que vous nous avez dit il y a quelques minutes. Il y a vraiment du monde qui s'intéresse à ses discours politiques dans cette campagne.
Bon, il a beaucoup de talent. Il a beaucoup de talent et c'est très intéressant et c'est très captivant. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en âge de voter et qui le suivent sur YouTube, on l'a dit.
Dommage pour lui.
Et qui ne voteront pas. D'ailleurs, il faudra faire attention à ça parce qu'il y a tout un élan en sa faveur qui ne se retrouvera peut-être pas dans les urnes. Mais donc, il est très captivant. Et puis, son thème d'aujourd'hui, honnêtement, moi, je veux bien marcher pour la 6e République. Pas peut-être pour sa façon à lui de la défendre, mais si c'est changer de système... en enlevant toutes les outrances, le dégagisme qui est son talent aussi, en enlevant les outrances, moi je comprends que beaucoup de Français veuillent changer de système.
Mais le dégagisme, c'est déjà une outrance. Hein.
C'est ça, c'est ce que je dis. Si j'enlève l'outrance, qui est finalement l'accusation que ce sont les personnes en fait qui captent tout, moi ça je ne partage pas du tout. Le système, lui, je pense qu'il est très fatigué.
Alors il a du talent, il rassemble du monde, mais pour l'instant, ça ne prend pas forcément dans cette campagne. Cécile Hamar, qu'est-ce qui lui manque à Jean-Luc Mélenchon pour passer devant Benoît Hamon et pour arriver au second tour de la présidentielle?
On verra, il est parti, il est en campagne depuis un an, il remplit des salles et il fait... on verra après, on verra ce que ça donnera à la présidentielle, mais en fait, il construit une force politique, ce qu'il n'avait pas fait en 2012, et il parie sur l'intelligence des gens. C'est-à-dire que les discours qu'il fait, il se trouve que moi je suis sa campagne à l'Obs, donc je suis allée dans un certain nombre de meetings, il fait des discours pendant une heure et demie, deux heures, qui sont des discours honnêtement d'un très bon niveau, d'un niveau intellectuel. Enfin voilà, c'est pas des discours faciles, c'est des discours sur, quand il fait une demi-heure sur la planification écologique et la mer.
Je reprends ce que vous me disiez tout à l'heure sur Benoît Hamon dans son meeting à Bercy.
Non, mais en l'occurrence, il part pas de la même chose. Benoît Hamon, il est candidat d'un parti qui a fait, en 2012, 28%, hein, François Hollande, au premier tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, il a fait 11% la dernière fois. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il est une force politique. Le PC a fait classiquement 3, 4, 5, 6%.
Ses ambitions sont d'aller bien au-delà de ce chiffre que pour l'instant les sondages lui donnent. Ils peuvent se tromper.
Vous écoutez n'importe quel candidat à la présidentielle, il vous explique qu'il est là pour être président de la République et qu'il va gagner. Donc ils ont des ambitions. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut...
Ah, pas Jean-Luc Mélenchon, c'est ça?
Si, si. Non, si, mais tous. Moi, je suis journaliste politique depuis 19 ans, j'ai jamais vu un candidat à la présidentielle ne pas m'expliquer qu'il allait gagner. Il se trouve qu'il y en a assez peu qui ont gagné en vrai. Hein.
Donc, tous ne sont pas. Voilà.
Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ils veulent faire. Après, il y a des équations politiques qui sont différentes. Donc, aujourd'hui, regarder sa campagne en disant 12% dans un sondage, c'est très mauvais.
Non, c'est plutôt bon. C'est
plutôt bon. Il est à sa place. Non, mais
il est à sa place.
Tout est relatif.
Il a fait ça la dernière fois. Il part de ça.
François Hollenwein.
Ben, on vient de le dire. Je pense qu'il a un apport dans cette campagne. Les questions qu'il pose sur les institutions sont de bonnes questions. Et je pense que si on avait plus parlé des programmes dans la campagne, peut-être que cette question serait un peu remontée dans les débats. Et ça, c'est intéressant. Mais je ne suis pas sûr que tous ces accents soient des accents absolument convaincants dans un débat... Ouais. Politique apaisée, dans une démocratie apaisée, que devrait être la France. Moi, il y a certaines façons de s'exprimer qui me heurtent personnellement.
Les outrances dont vous parliez tout à l'heure.
Dégagé, enfin, c'est quoi ça?
Bon, le dégagisme, c'est l'un des thèmes de Jean-Luc Mélenchon. On va poursuivre sur la prestation du candidat de la France insoumise hier, place de la République, juste après l'info, 20h20, Stéphane Milhomme.
Jusqu'à 7500 participants à la manifestation contre les violences policières, à l'appel de plusieurs associations et syndicats. Ils ont défilé dans le calme à Paris entre République et Nation. En fin de cortège, près d'un millier de personnes se sont masquées. Elles ont lancé des cocktails Molotov aux forces de l'ordre. Deux gendarmes sont blessés. Les vitrines de 5 agences bancaires ont été dégradées. Pour Benoît Hamon, le parti de l'argent a trop de candidats dans cette présidentielle. Le candidat socialiste tenait cet après-midi son grand meeting à Paris-Bercy. Il a fait applaudir François Hollande, Bernard Cazeneuve, Jean-Yves Le Drian pour leur action contre le terrorisme, mais pas Manuel Valls qui a décidé il y a quelques jours de ne pas le soutenir. 5 ans après les attentats de Mohamed Merah, la République n'oublie pas. Par ses mots à Toulouse, Bruno Leroux a rendu hommage aux 7 victimes du terroriste en mars 2012. Devant un millier de participants, cette cérémonie se déroulait à l'école juive Ozar HaTorah, rebaptisée Hors Torah. Encore quelques retards, mais la situation s'est normalisée à Orly à la mi-journée. Après l'attaque hier matin, l'enquête se concentre désormais sur le profil de l'assaillant. Son frère et son cousin interrogés toute cette journée. Son père a été remis en liberté. Et puis le Racing 92 renonce à la fusion avec le Stade français. Les présidents font marche arrière. Les conditions sociales, politiques, culturelles, humaines, sportives ne sont pas remplies. Les rugbymen du Stade français arrêtent leur grève, mais restent vigilants.
Info. 20h, 21h, les informés, Jérôme Cadet.
Les informés de France Info, David Bouhery, France Télévisions, Laurent Guez du Parisien Magazine, François Hernenwein de La Croix et Cécile Amard de l'Obs. On parle de Jean-Luc Mélenchon qui a réuni 100 000, 130 000, disait-il, partisans hier, place de la République à Paris, au terme d'une marche qui allait donc de la place de la Bastille à la place de la République. Il avait fait le choix inverse en 2012. On voit beaucoup plus de drapeaux français qu'on en voyait il y a 5 ans autour de Jean-Luc Mélenchon. On ne chante plus l'international à la fin de ces meetings. Est-ce que vous voyez là un changement de stratégie? Le symbole, ça compte. Et Jean-Luc Mélenchon, qui connaît parfaitement l'histoire de France, mieux que quiconque.
Il y a surtout une posture chez Mélenchon. Il y a sans doute un programme structuré. Comme il est très intelligent, il le défend très bien et très cultivé. Mais c'est surtout une posture, c'est surtout une indignation. Moi, je suis frappé de voir que dans les moments difficiles comme celui qu'on traverse, ce sont les postures qui payent beaucoup aujourd'hui.
C'est-à-dire une posture?
C'est-à-dire que quand il dit « il faut les dégager, on voit les banderoles », c'est assez facile, comme si les problèmes de l'époque comment vivre avec la mondialisation. Enfin, je ne vais pas refaire la liste. Bon, on pourrait, si vous voulez, mais les problèmes de l'époque, je veux dire, nous quatre, avec toute notre bonne volonté, avoir un avis définitif sur la bonne solution, je crois que c'est absolument gigantesquement difficile de savoir comment régler tous ces problèmes.
Ce qu'il appelle le dégagisme, il va peut-être au-delà des personnes, c'est aussi les idées dont il est question, Cécile Lamarre.
Alors, juste sur le dégagisme, en fait, en 2012, il avait fait un livre qui s'appelait « Qu'ils s'en aillent tous ».
Oui.
Je veux dire, c'est que...
Qui était inspiré...
Oui, non, mais c'est ça, mais qui est inspiré de mouvements en Amérique latine, voilà. De mouvements... voilà, c'est, ce que je veux dire, c'est que son...
Cette thématique-là n'est pas nouvelle chez lui.
Non, et elle est...
Mais le terme est plus fort, du coup.
Oui, non, mais le terme est plus fort. On est dans une élection dans laquelle il y a un certain nombre de gens qui ont effectivement dégagé primaire après primaire.
Est-ce que lui-même ne peut pas être victime de cela ?
Bien sûr, c'est exactement ce que je veux dire.
C'est la deuxième fois qu'il se présente.
C'est par ailleurs le principe du dégagisme et le principe de cette élection-là où, grosso modo, les électeurs, à chaque fois qu'ils ont eu à voter, ont sorti les sortants...
C'est risqué.
Il peut être ah ben oui, par définition.
Rapidement, vous êtes, François.
Je vais les dégager tous, pas les sortants. Et ça change beaucoup. Ça veut dire que les fautifs, ils sont désignés. Et c'est ça qui m'a
fait. Non, moi, je disais que les électeurs dans les primaires.
Je partage la
gêne. François,
les électeurs dans les primaires, ils ont sorti les sortants.
Je pense qu'on est nombreux autour de cette table à considérer qu'il y a un besoin de réforme institutionnelle en France, oui. Que le comportement d'un certain nombre d'élus n'est pas toujours exemplaire. Ça a eu des effets sur cette campagne présidentielle. Cette question-là est bonne, mais la manière de la poser n'est absolument pas indifférente pour bâtir les solutions. Qu'est-ce que c'est proclamer du balai ? À quelle rhétorique ça correspond ? C'est absolument pas une ambition réformatrice, mesurée, équilibrée. C'est du populisme.
Bon, après, non, il connaît bien les médias et sait comment émerger.
Je vais juste dire un mot, parce que mobilisation réussie, oui, c'est vrai, très impressionnant, coup de force, tout ce qu'on veut, mais enfin, c'est quand même
force,
essentiellement
si
le rassemblement de,
force, mais...
de son camp. Enfin, je veux dire, moi, j'ai surtout vu... des militants du parti communiste, du parti de gauche, enfin de la gauche au sens large, beaucoup plus que de gens venant de tous horizons pour venir hier à Place de la République.
Donc même problématique que pour Benoît Hamon, il va falloir élargir.
Moi, c'est l'impression que ça me donne
cette base-là rassemblée hier autour de.
Il n'y a pas beaucoup de candidats qui mettent 100 000 personnes dans la rue aujourd'hui. Hein.
C'est vrai, mais remplir une place et remplir les urnes lors d'une élection,
non,
c'est deux choses différentes.
C'est déjà
deux exercices différents. Il nous reste deux minutes. On en a parlé deux. Il y en a 11 hein, en tout. Le Conseil constitutionnel a validé hier ce chiffre de 11 candidats. C'est un de plus qu'en 2012, 5 de moins qu'en 2002. Je vais les citer. Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou. Ouf, voilà, 11 candidats. Finalement, la publicité des parrainages n'a pas empêché des candidatures.
Moi, je vous plains, en tout cas, parce qu'on a maintenant cette
liste. Ça va très bien, Laurent Guez, personnellement.
Oui, mais ça va bientôt commencer avec les règles très strictes d'égalité et d'égalité.
On a l'habitude, il y en avait...
Vous avez l'habitude, mais je suis, moi, assez heureux, 10, dans la presse écrite, de pouvoir avoir notre propre principe d'équité, de ne pas avoir cette
les règles
imposée.
Les règles ne sont pas les mêmes en radio et en télévision qu'en presse.
C'est ce que je
voilà,
c'est ce
non,
que
mais je précise juste.
Oui, vous avez raison. Et je regrette, moi, que, personnellement, mais je sais que le sujet peut être très polémique, je regrette que chacun puisse avoir autant de oui. capter autant non, d'attention pour des gens qui, par exemple, Cheminade, il a fait 85 000 voix il y a 5 ans, il a fait 85 000 voix il y a 10 ans, et peut-être qu'il va faire 85 000 voix cette année. Est-ce qu'on est obligé d'écouter ces trucs pendant toute la campagne ? Moi, franchement, je m'en serais bien passé, personnellement.
Non, mais du coup, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ça montre que la réforme, justement, du parrainage pour arriver à dissuader ces petits candidats n'a absolument pas fonctionné. Donc, il faut peut-être trouver une autre façon de désigner les candidats.
Ce casting, est-ce qu'il peut avoir un impact sur le résultat final ? Type Christiane Taubira, candidate... en 2002, qui empêche
la situation,
un peu
moins. La situation était pas
d'arriver au second tour.
La un situation en 2002 n'était pas exactement la même. C'était un camp qui se disséminait.
Il y avait 16 candidats.
Il y avait Chevènement, Taubira, etc. Ça rendait les choses complexes pour la gauche plurielle, comme on disait à l'époque, puisqu'il y avait beaucoup de candidatures. Là, c'est un émiettement total. Il y a un certain nombre des petits candidats que vous n'arrivez absolument pas à situer sur le spectre politique.
Attention, vous avez dit un gros mot, François Hanenwein.
Non, c'est pas un gros mot, c'est un constat. Mais de manière très pragmatique, on peut constater que parmi les 11 candidats, tous n'ont pas la même autorité, ni même, je dirais, la même légitimité à conquérir.
Suite des informés de France Info dans 5 minutes. On se retrouve, à tout de suite. Vos conditions de circulation en ce dimanche soir. Kevin Blondel au PC Mobilité de Radio France avec un gros accident sur l'autoroute A62.
Oui, entre Bordeaux et Toulouse, il implique 5 véhicules. Quand vous roulez vers Toulouse à hauteur de Donzac, c'est dans le Tarn-et-Garonne, l'autoroute est fermée sur 3 km. Alors il faut prendre la sortie de Dunes, sinon vous allez vous trouver bloqué. Bien plus au nord, le trafic est aussi assez dense sur la N118 après un accident à hauteur de Bièvre. Quand vous montez vers Paris, accident entre une voiture et une moto, la voie de droite est fermée. Comptez 20 minutes de trajet supplémentaire pour aller jusqu'à la capitale.
France Info Météo, avec CIC et vous. Bienvenue dans une banque digitale et surtout humaine. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Le temps de votre début de semaine, Jean-Michel Golinski.
Demain, les températures et la carte du temps sensible vont conserver à peu près le même aspect qu'aujourd'hui. Conséquence, il y aura à nouveau beaucoup plus de gris que de bleu, avec dès le matin un bon ensoleillement des Pyrénées au pourtour méditerranéen. En journée, les éclaircies vont gagner vers le Massif central, Rhône-Alpes, la Franche-Comté et l'Alsace. En revanche, partout ailleurs, les trouées seront rares, dans un ciel souvent chargé, ponctué d'un peu de pluie le matin vers la Côte d'Opale, le Poitou et la Lorraine, avant l'arrivée en soirée d'une dégradation pluvieuse plus marquée par la Bretagne. Sur les côtes de la Manche, le vent sera toujours bien sensible ce lundi. Les températures, confortablement établies entre 8 et 11 degrés en fin de nuit, vont afficher un maximum de 13 à 15 dans la moitié nord, 16 à 17 dans le quart sud-ouest, 18 sur l'Alsace et la Corse, et 19 à 22 degrés de Rhône-Alpes à la Méditerranée.
Jean-Michel Golinski, Météo France, France Info, il est 20h30.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
L'info à 20h30, Julie Smul.
Le frère et le cousin de l'homme abattu hier matin à l'aéroport d'Orly viennent de sortir de garde à vue. Ils étaient interrogés par les enquêteurs de la section antiterroriste. Les enquêteurs qui tentent toujours de comprendre ce qui a poussé cet homme de 39 ans à s'attaquer à cette patrouille de l'opération Sentinelle. Un homme condamné plusieurs fois pour des vols avec violence, repéré également comme radicalisé lors de l'un de ses passages en prison en 2011. Ils sont encore des milliers ce soir pour assister au concert Place de la République à Paris. Les participants de la marche pour la justice et la dignité, ils étaient plus de 7000 cet après-midi dans la rue pour dénoncer les violences policières et les contrôles aux faciès. Quelques tensions en marge de ce rassemblement, des manifestants cagoulés qui lancent des fumigènes et des projectiles sur les forces de l'ordre. D'après la préfecture de Paris, 2 gendarmes ont été légèrement blessés, 3 personnes interpellées. Paris gagné pour Benoît Hamon. Aujourd'hui en meeting à Paris, il espérait 15 000 participants. Ils étaient finalement 25 000 d'après son équipe de campagne. Le candidat socialiste qui a notamment dénoncé le parti de l'argent, un parti qui a trop de candidats dans cette élection présidentielle d'après Benoît Hamon. Pendant ce temps-là, François Fillon change de slogan pour sa campagne. Trop de moqueries autour de l'ancien, le courage de la vérité. Le nouveau slogan de François Fillon désormais, c'est une volonté pour la France. Beaucoup de réactions ce soir suite à l'abandon du projet de fusion entre le Racing 92 et le Stade Français, les deux clubs de rugby parisiens. Soulagement des joueurs et des supporters, les joueurs du Stade Français notamment, qui lèvent la grève qu'ils avaient lancée pour protester contre cette fusion. Même si aujourd'hui, l'avenir reste flou pour le club qui rencontre en ce moment de grosses difficultés, Fanny Lechevestrier.
Une construction de cette dimension n'aurait eu aucun sens dans le combat. Déclaration tout à l'heure de Thomas Savard après l'annonce de l'abandon du projet de fusion entre les deux clubs franciliens. Dans un communiqué, le président du Stade Français explique aussi avoir entendu l'émotion, la surprise et l'incompréhension des supporters, des joueurs et des membres de l'association, ainsi que leur attachement à l'indépendance du Stade Français Paris. En revanche, pas d'indication pour le moment de ce qu'il va faire du club de rugby parisien en difficulté financière depuis plusieurs années. Thomas Savard ne s'est pas caché d'avoir longtemps cherché un repreneur. En 6 ans, je vous rappelle qu'aucun candidat sérieux ne s'est présenté, déclara-t-il vendredi à la sortie de la réunion à la Ligue pour justifier et expliquer la fusion. Va-t-il mettre sa menace à exécution, celle d'un dépôt de bilan du club en fin de saison? Les joueurs, aidés par la fédération qui travaille depuis plusieurs jours sur des pistes de reprise, ont-ils un acheteur viable à proposer? Autant de questions qui laissent aujourd'hui le Stade Français dans le flou quant à son avenir et sa pérennité.
On retrouve tout de suite la suite des informés sur France Info avec Jérôme Cadet.
20h, 21h, les informés, Jérôme Cadet.
Les informés de France Info, vous nous suivez sur France Info, à la radio, à la télé, le canal 27 de la TNT et sur franceinfo.fr avec nous Cécile Amar, journaliste à l'Obs, François Ernenwein, rédacteur en chef de La Croix, Laurent Guez, directeur de la rédaction du Parisien Magazine et David Bouhery du service économie et sociale de France Télévisions. On va parler dans 10 minutes de ce débat. De demain soir, 5 des 11 candidats à la présidentielle vont en découdre. Avant cela, le terrorisme qui s'invite dans la campagne attaque hier matin à l'aéroport d'Orly, mené par un homme de 39 ans contre une patrouille de militaires de l'opération Sentinelle. Cet homme a été abattu par ces militaires. Il n'y a pas eu de blessés. L'aéroport a été évacué, ce qui a suscité, et avant même que l'on connaisse le déroulé exact des faits, de nombreux commentaires politiques hier. Notre gouvernement est dépassé, ahuri, tétanisé comme un lapin dans les phares d'une voiture. Déclaration de Marine Le Pen hier en meeting à Metz. François Fillon, lui aussi, a réagi, le candidat de la droite, plus précisément sur la question de la levée ou du maintien de l'état d'urgence. François Fillon.
Voilà déjà un moment que je dis et rappelle que nous sommes en état d'urgence, que nous nous trouvons dans une situation de quasi-guerre civile. Et je ne fais que reprendre l'expression employée par le directeur général de la sécurité intérieure lui-même. Je sais bien que ma détermination à appeler les choses par leur nom déplaît. Eh bien, qu'importe. Rien, je dis bien rien, n'autorise à lever l'état d'urgence, contrairement à ce que le ministre de la Justice prétendait en début de semaine. Face aux enjeux terribles auxquels nous sommes confrontés, l'insouciance n'est pas de mise.
Voilà, François Fillon, hier après cette attaque à Orly, beaucoup de candidats demandent à ce que l'état d'urgence soit maintenu. Marine Le Pen est, elle, quasiment la seule à s'en prendre directement à la politique du gouvernement en matière de sécurité, ce que ne fait pas François Fillon dans l'extrait qu'on vient d'entendre, ni d'ailleurs dans toute la vidéo qu'il a postée hier. Est-ce qu'il y a encore une sorte de consensus parmi les candidats à la présidentielle sur ces questions de sécurité, ou bien est-ce que ça va faire débat dans les semaines qui viennent? Pour l'instant, j'ai pas le sentiment que ce soit le cas, David Bouhery.
Juste pour revenir quand même sur la déclaration de Marine Le Pen hier, c'est une déclaration que moi je trouve déplacée et qui en plus est totalement hors sujet. Déplacée parce que, je sais pas, ça se passe à peine quelques heures après ce qui s'est passé à Orly, tout le monde est encore sous le choc, on ne sait pas encore très bien. On ne sait pas encore très bien qu'est-ce qui s'était passé. Donc je pense que je ne vois pas en quoi qu'est-ce que la polémique politique apporte à ce moment-là un peu particulier. Et je pense qu'on a, dans ces moments-là, face à l'adversité, beaucoup plus besoin d'unité. Premier point. Deuxième point, c'est totalement hors sujet parce que l'attaque à Orly n'a rien à voir avec l'état d'urgence. C'est un individu qui s'attaque à une patrouille Sentinelle. Sentinelle n'a rien à voir avec l'état d'urgence. Ça peut très bien se poursuivre. Ça a même commencé avant la proclamation de l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est surtout de permettre aux enquêteurs et aux autorités judiciaires d'avoir plus de moyens et de liberté pour conduire leurs enquêtes.
Des perquisitions, notamment.
Voilà. Après, si la seule critique, c'est de dire comment est-il possible qu'un individu arrive à rentrer librement dans un aéroport, ça, c'est une autre question de savoir comment sécuriser les aéroports. Mais tout le monde vous dira que si on fait un contrôle de sécurité avant même de rentrer dans l'aérogare, ça veut dire que les gens attendent dehors. Alors ça se fait dans certains aéroports à l'étranger. Vous avez peut-être vu ça quand vous êtes partis en vacances dans des, par exemple au Maroc, ça se fait dans les aéroports. Sauf qu'il y a 10 à 15 fois moins de passagers par jour. Donc juste pour vous donner une idée, à Orly c'est 31 millions de passagers par an. Donc de contrôler tout le monde systématiquement dans des aérogares. Je vois pas très bien comment c'est possible.
Sur ces questions d'état d'urgence, de maintien ou pas de l'opération Sentinelle, est-ce que le débat peut...
Mais Sentinelle n'a rien à voir avec l'état d'urgence.
Ce sont deux questions
différentes.
On est bien d'accord, mais le besoin de sécurité est tel qu'il est aujourd'hui impensable qu'un candidat avance dans cette campagne en décrétant que s'il est élu, on renoncera à l'état d'urgence. La question qu'il faut poser, si le débat se développe, c'est est-ce que l'urgence a vocation à être éternelle ? Comment est-ce qu'on articule sécurité et liberté ? Parce que on voit bien que cet état d'urgence répond à l'émotion et à la violence après les attentats terroristes, mais dans le mot urgence, il n'y a pas vocation non plus à ce que les choses se prolongent indéfiniment. Et si cette présidentielle avait eu lieu dans des conditions à peu près normales, si les débats s'étaient poursuivis de manière beaucoup plus sereine, je pense qu'il aurait fallu que la question de la sécurité, comment on équilibre sécurité et liberté, soit posée par l'un ou l'autre des candidats.
Cécile Amar.
Oui, après, il faut se souvenir que François Hollande avait annoncé le 14 juillet, dans son intervention, qu'il allait lever l'état d'urgence et qu'il y a eu
le jour de l'attentat de Nice.
Donc, cette équipe-là, je crois qu'a compris que plus jamais elle n'annoncera de lever l'état d'urgence. Et c'est pour ça que le président de la République, le Premier ministre, était très, très, très énervé de la déclaration du ministre de la Justice.
Jean-Jacques Urvoas,
qui a fait une déclaration
de la levée de l'état d'urgence.
Voilà, en disant qu'il fallait avoir du courage politique pour le lever. Ça ne leur a pas échappé qu'il y a eu une attaque quelques jours après.
Exactement. Je cite Georges Fenech, député Les Républicains du Rhône, ancien président de la commission d'enquête parlementaire, qui nous disait il y a quelques semaines, il faudra bien un jour ou l'autre qu'on prenne cette décision, qu'on assure la défense de nos villes par des policiers, des gendarmes dont c'est le métier. Les soldats sont faits pour la guerre, pas de la sécurité civile sur le territoire national. Laurent Guez, bon voilà.
Personne ne veut le faire pendant la campagne présidentielle, parce qu'évidemment, si vous le faites en campagne, vous aurez des politiques, vous aurez des polémiques politiques.
Oui, puis ça revient à déterminer la nouvelle
règle. Non, je partage ce que mes confrères ont dit sur c'est triste comme constat, mais c'est absolument impossible aujourd'hui de préconiser l'arrêt de l'état de siège, parce que si l'état par malheur... Pardon, parce que si par malheur il arrivait un attentat et l'événement de ce week-end est encore un peu indéterminé, mais s'il arrivait un attentat malheureusement comme on en a connu, je pense que les responsabilités iraient directement vers ceux qui ont préconisé les règles. Donc c'est absolument impossible. Donc c'est impossible pour l'équipe actuelle, comme dit Cécile. Et je pense qu'il faudrait qu'au tout début du prochain quinquennat, on repose cette question plutôt que d'être un petit peu piégé dans un état d'urgence permanent.
On continue ce débat, cet échange, juste après l'info, à 20h40 avec Stéphane Milhomme.
Après l'attaque d'Orly, la garde à vue du frère et du cousin de l'assaillant est levée ce soir. Il s'était présenté spontanément hier matin. Les enquêteurs tentent de savoir ce qui a poussé Ziad Ben Belghassem à s'en prendre à une patrouille de militaires à l'aéroport avant d'être abattu. Du côté du trafic aérien, la situation s'est normalisée à la mi-journée. Contre les violences policières, jusqu'à 7500 personnes manifestaient cet après-midi à Paris de Nation à République. Quelques heures ont éclaté. Près d'un millier de personnes positionnées en fin de défilé se sont masquées et ont commis des dégradations. Lancées des cocktails Molotov, deux gendarmes sont légèrement blessés. Pour Benoît Hamon, le parti de l'argent a trop de candidats dans cette présidentielle. Le socialiste tenait cet après-midi un grand meeting à Bercy. Il a fait applaudir François Hollande, Bernard Cazeneuve, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian pour leur action contre le terrorisme, mais pas Manuel Valls. Et ce matin, l'ancien Premier ministre réfutait en bloc les accusations de trahison après son refus de parrainer Benoît Hamon. Manuel Valls, dans le journal du dimanche, appelle à oublier les vieux clivages partisans. Suite et fin de la 30e journée de Ligue 1 de football. Dès 21h, le PSG, deuxième du championnat, accueillera Lyon, le 4e. Avant cela, Monaco conforte sa place de leader. Plus fort cet après-midi que Caen 3-0. Et Saint-Etienne a eu raison de Dijon 1-0.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jérôme Cadet.
Les informés de France Info, David Bouhery, France Télévisions, Laurent Guez, Le Parisien Magazine, François Hernenwein, Delacroix et Cécile Amar de l'Obs. Les questions de terrorisme et de sécurité de retour dans la campagne après l'attaque terroriste d'hier matin à Orly. C'est dans ce contexte que Emmanuel Macron présentait hier son programme en matière de défense avec cette proposition, le rétablissement du service militaire obligatoire pour un mois pour les jeunes garçons comme pour les jeunes filles, pour trois raisons. Expérience de la vie militaire, nous dit Emmanuel Macron. Détection de l'illettrisme, donc deux raisons principales et non pas trois. Il ne chiffre pas le coût de cette mesure. Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est un marqueur pour lui, pour essayer de montrer qu'il s'intéresse à ces questions régaliennes, qui ne sont pas au départ parmi les propositions qu'il a formulées en matière économique, sur des terrains sur lesquels on attend peut-être moins, par exemple.
Ni ministre de la Défense, c'est pour ça. Il a été ministre de l'économie, mais pas ni à l'intérieur ni à la Défense. Ce que je trouve surprenant, surtout sur le choix, c'est un mois, parce que je comprends pas très bien quelle est le, si c'est possible juste sur un mois. Enfin, je sais pas, moi je fais partie de ceux qui l'ont fait quand ça existait.
Alors, je ne sais pas si Emmanuel Macron a fait son service militaire. C'est la question que je me suis posée.
Ça n'existait plus.
À l'époque, sûr.
Donc à mon époque, moi qui suis vieux, c'était 10 mois, ce qui effectivement permettait de faire quelque chose, d'apprendre même des choses très intéressantes, etc. Mais là, en un mois, je vois pas très bien comment ça peut s'organiser. Il a pas dit beaucoup plus d'ailleurs sur pour faire quoi exactement. Oui, en réalité.
Réaction de Luc Châtel, porte-parole de François Fillon, c'est absurde et irréaliste. Les militaires ne sont pas des animateurs sociaux et lui aussi émet des doutes sur le fait qu'en un mois, on puisse acquérir une réelle compétence.
Oui, il y a eu cette critique-là de dire
militaire.
L'armée n'est pas une garderie, on a entendu
c'est,
ça.
C'est un peu ce qui est, ce qui est repris là, François Hernenwein.
Mais c'est un peu contre-tendanciel. Ça commence à s'installer un service civique qui est une offre intéressante. Je ne vois pas pourquoi cette proposition qui viendrait en biais attaquer la mise en place progressive du service civique est vraiment créatrice de quelque chose. Vous l'avez tous très bien dit, en un mois, on n'apprend pas le maniement des armes, on ne s'inculture pas aux questions de défense, c'est un peu ridicule.
Ça plairait plutôt à un électorat de droite, cette proposition, Cécile Amar, rétablissement d'un
peut-être
service militaire, c'est, ça qui, c'est ça qui reste dans la tête, plutôt que le un mois, peut-être.
Mais c'est pour ça que vous avez tous raison, le truc est un peu bâtard. C'est-à-dire que soit vous rétablissez le service militaire et vous expliquez qu'on a besoin et que dans un pays qui est en guerre ou qui est attaqué... le service militaire,
Je trouve bien définitif sur cette affaire.
Mais à ce moment-là, fait six mois.
C'est
une position complètement possible, mais ça dure six mois. Ça dure six mois ou ça dure un an.
Je ne suis pas un expert militaire, mais le fait d'avoir une période, d'abord pour son pays.
Mais non, c'est le service civique.
Et en plus, avec une initiation à des sujets militaires. Je trouve ça plutôt intéressant. Je n'ai pas envie, à chaque fois que quelqu'un met une idée sur la table, de voir s'il y a un calcul pour aller chercher à droite, à gauche et tout.
Regardons parfois. Faut pas être naïf non plus.
Peut-être, mais on peut regarder l'idée aussi.
Une campagne.
Mais on peut regarder l'idée en soi. Primaire et ça a duré six mois.
Je trouve l'idée pas mauvaise.
Et
le fait de le faire court, et c'est vrai qu'Emmanuel Macron a quand même une forte propension à penser carrière, économie, etc. De ne pas casser les gens qui, peut-être après le bac, voulaient faire des études ou des gens qui, après leurs études, voulaient commencer à travailler, de ne pas faire une trop longue interruption, mais faire une initiation, ça me paraît, moi, une très bonne idée.
Moi, je retiens
peut-être
le mot...
que c'est plutôt deux mois qu'un, mais en tout cas, l'idée d'une initiation courte, ça m'étonnerait que ce soit une mauvaise idée.
Moi, je retiens le mot obligatoire, parce que lorsque Jacques Chirac l'a supprimé en 1996, il n'était plus vraiment obligatoire. Il l'était dans les textes, mais dans les faits, il l'était de moins en moins.
Et il est pour les filles aussi, là.
Voilà, absolument, ce qui n'était pas le cas précédemment. Alors, 11 candidats à la présidentielle, on l'a dit, mais 5 seulement demain soir sur le plateau de TF1 pour un débat d'avant premier tour, ce qui sera une première dans l'histoire de la 5e République. Est-ce à dire que la présidentielle, que la télé fait encore l'élection à l'heure qu'il est en 2017, à l'heure d'Internet, des réseaux sociaux, des chaînes YouTube, des candidats, la télé qu'on disait ringarde est à nouveau... Pardon, David Boury.
Non, mais j'ai bien compris.
La télé... est à nouveau au centre du jeu, ce débat de demain soir. Beaucoup de candidats misent, vous me disiez Benoît Hamon, voilà, le débat de demain, ça peut être pour lui sa planche de salut. Est-ce qu'on ne surestime pas l'importance de ces débats?
Ouais, enfin, Télé-Ringarde, moi je remarque surtout que les 7 candidats qui ne sont pas au débat, les 7 candidats qui ne seront pas présents dans ce débat n'arrêtent pas de se plaindre de ne pas y
être.
Oui, les 6, pardon. Oui, c'est vrai. Les 6 qui n'y sont pas n'arrêtent pas de se plaindre. Donc, je pense qu'il y a quand même un intérêt. Moi, je dis, ça peut effectivement être très intéressant. Tout dépend, en fait, de comment est-ce que les candidats vont aborder cette nouvelle épreuve. Parce que on en a vu certains lors des débats des primaires.
Il y en a deux qui sont rodés, François
voilà.
Fillon et
Benoît
Hamon.
Oui, mais sauf que l'exercice est totalement différent, parce que pendant les primaires, c'était de vous départager dans votre camp avec... vous pouviez avoir des positions différentes d'un candidat à l'autre, mais vous apparteniez là, au même camp. Là, c'est 5 candidats qui n'ont pas forcément grand-chose à voir les uns avec les autres et qui doivent défendre leurs idées vis-à-vis des autres. Donc... en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quelle est la stratégie qu'ils vont prendre chacun pour exister dans ce débat. S'il va pas y avoir, je sais pas, d'une certaine façon, une collusion pour tous taper sur le même. auquel cas
à des jeux d'alliance,
auquel cas ça pourrait donner d'autres résultats, ou de savoir si ça va pouvoir effectivement, dans ce format avec 5 candidats, lancer une campagne qui serait plus sur les idées et sur le fond.
Enfin, sur l'importance de ces débats, la place de la télévision à l'heure de YouTube, les réseaux sociaux, etc. François Nenvaille.
Moi, je trouve que c'est une dramaturgie intéressante. D'ailleurs, elle a été plébiscité par les Français à l'occasion du débat pour les primaires. C'était des débats différents. Cette dramaturgie, unité de lieu, unité de temps, c'est un moment, c'est un rendez-vous important d'une campagne électorale. Et le fait qu'il y en ait un avant le premier tour, je trouve, c'est pas une mauvaise chose.
Il y en aura trois, oui. Il y en aura trois.
Il y en aura une chez nous, d'ailleurs.
Au final, absolument. Sur France Télévisions, Laurent Gazet.
Ouais, moi, je pense qu'on va rentrer dans une deuxième phase de campagne. Moi, je pense que c'est un moment très important. Et moi, pour ne rien vous cacher, j'attends ce moment avec une délectation, je ne peux pas vous le cacher. Je pense que ça va être un grand moment. Les organisateurs.
C'est ce que je
disais aussi, hein. Oui, mais je contrôle pas. Les organisateurs ont apparemment envie de favoriser les échanges directs et pas. Parce que les débats des primaires, ce n'était pas toujours des débats, c'était souvent aussi, compte tenu des règles, des exposés successifs. Là, même la configuration va favoriser les échanges directs. Moi, franchement, j'attends ça avec une impatience folle. Et d'ailleurs, si je peux me permettre d'en dire un mot, le Parisien Magazine s'est associé à une étude assez inédite, puisqu'on va mesurer sur un panel de Français les émotions. Les émotions.
Ils vont ressortir en voyant les...
Les émotions, c'est-à-dire la peur, la colère, la sympathie, le bonheur, etc. Minute par minute, avec des capteurs qui vont être placés sur chacun des panélistes. Et ça va être très intéressant de voir les émotions, parce que c'est beaucoup plus des émotions que les idées, la télé, parfois. Donc, on va voir ce qui va se passer lundi soir. Ça va être passionnant.
On espère qu'il y aura aussi des idées.
Ah, mais il y en a toujours.
Des émotions demain soir.
Mais c'est pas toujours là que ça se passe.
On poursuit cet échange juste après l'info, 20h50, Stéphane Milhom.
La garde à vue du frère et du cousin de l'assaillant d'Orly est levée ce soir. Les deux hommes s'étaient présentés spontanément après l'attaque. Les enquêteurs tentent de savoir ce qui a poussé cet homme à s'en prendre à une patrouille de militaires avant d'être abattu. Du côté du trafic aérien, la situation s'est normalisée à Orly à la mi-journée. Plusieurs centaines de policiers mobilisés à l'aéroport. Près de 90% des vols seront assurés demain chez Air France, même si 30% des stewards et hôtesses de l'air seront en grève pour la journée, selon la direction. Les chiffres sont donc communiqués ce soir. Les grévistes réclament des hausses de salaire et s'opposent au nouveau projet de compagnie aérienne à bas coût. Le grand meeting de campagne de Benoît Hamon à Paris-Bercy. Le candidat socialiste annonce 20 à 25 000 participants. Outre le revenu universel, il promet 40 000 postes d'enseignants supplémentaires. Et puis selon lui, la France ne doit pas être le musée des projets industriels dépassés. Nucléaire, diesel, agriculture intensive. François Fillon se choisit un nouveau slogan pour sa campagne. Une volonté pour la France. Le candidat de droite le dévoile sur son compte Twitter. La formule remplace le courage de la vérité. Ce premier slogan moqué du fait de l'affaire des soupçons d'emploi fictifs de sa famille. Et puis la grève des rugbymen du Stade français est levée à l'unanimité. La suite logique de l'annonce ce matin de l'abandon du projet de fusion avec le Racing 92. Une décision des présidents devant les fortes réticences rencontrées toute cette semaine.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jérôme Cadet.
Les informés de France Info, Cécile Amar, de l'Obs, François Ernenvain, de La Croix, David Bouéry, France Télévisions, Laurent Guez du Parisien Magazine. Un débat télé demain soir entre 5 des 11 candidats à la présidentielle. Vous êtes quasiment tous des enfants de la télé, si je vous ai bien entendu, parce que ce débat va être passionnant, il va avoir un impact très fort. Cécile Amar, vous ne m'avez pas dit si vous êtes aussi, vous, une enfant de la télé, si vous pensez que ce débat va avoir un impact considérable.
Pas forcément, justement. C'est en fait la logique de la primaire qui s'incruste dans l'élection présidentielle. Jusque-là, il n'y en a jamais eu. Et jusque-là, il y avait un seul débat entre les deux tours. Et comme il n'y en avait qu'un, c'était un moment très important de l'élection. C'était un moment où tout le monde regardait, où il se passait. On a tous des souvenirs, il se passait quelque chose.
C'était sacralisé.
Oui, c'était sacralisé. Là, ça banalise. Après, les gens ne s'en souviennent peut-être pas, mais en 2002... Jacques Chirac a refusé le débat d'entre deux tours
avec
Jean-Marie Le Pen. Là, demain, il y a déjà un premier débat avec Marine Le Pen et il n'y a aucun des quatre candidats qui a dit « le Front National n'est peut-être pas un parti comme un autre ». Enfin voilà, ça banalise, ça homogénéise. Après, il y aura...
Parce qu'il faudrait refuser ces cinémas.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette question s'était posée. Cette
Elle
question,
ne se pose
par
pas
définition,
aujourd'hui.
Ne peut plus se poser. C'est une question. Après, vous allez voir ce que c'est un débat, parce qu'il y a demain un débat à 5.
Vous imaginez mais si les candidats débats... avaient refusé de débattre avec Marine Le Pen, qui est depuis des mois en tête de tous les
D'accord,
sondages.
Et alors, il y a des gens qui ont le droit de considérer que le Front National n'est pas un parti
républicain.
Non, mais peu importe. Après, il y aura un débat avec 11 candidats. Ce que je veux dire, c'est que les débats télé, ça produit aussi des gens qui font des coups. Enfin, on connaît, certains d'entre vous connaissent forcément Jean Lassalle. Jean Lassalle, à l'Assemblée, il a chanté. Il va peut-être chanter dans un débat télé. Mais ce que je veux dire, c'est que ça produit la télé et la communication de cette façon-là.
Une forme d'expression politique particulière.
Ouais, peut aussi
Alors,
produire ça.
Les réseaux sociaux en produisent une autre. Et aux États-Unis, dans la dernière campagne présidentielle, on a beaucoup insisté sur l'importance d'Internet, des réseaux sociaux, etc. On a dit que la campagne, c'était pas forcément faite ou jouée lors des débats entre Hillary Clinton et Donald Trump. Ça ne serait donc pas vrai en France. On serait dans une autre dynamique.
Elle se joue sur les deux tableaux, je pense.
David Bourré.
Je pense qu'elle se joue là, du coup, sur les deux tableaux, parce qu'il y a aussi plein de choses sur les réseaux sociaux. Enfin, vous parliez tout à l'heure de chaîne YouTube. On sait que Jean-Luc Mélenchon a l'une des plus grosses chaînes, si c'est pas d'ailleurs la plus grosse chaîne en France.
Chaîne politique, oui.
YouTube, donc non, ça se joue sur tous les tableaux, pas sur tous les écrans, en réalité. Non.
Je crois qu'il y a quand même, si on regarde un peu de façon quantitative, je pense que l'impact de la télévision et des grandes chaînes est considérable.
Reste incontournable. Ah,
c'est ce qui me rassure.
Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'évoquais cette enquête qu'on fait avec l'Institut Data Calab, que j'ai oublié de citer.
Peut-être pas pour toutes les générations, d'ailleurs.
C'était pas pour mesurer seulement les émotions, je le précise, mais c'est les idées qui en provoquent. Et qu'est-ce que, mieux que la télé, traduit des idées, des projets en émotions positives ou négatives? Il me semble que c'est le propre de la télévision. De créer de l'empathie ou de l'antipathie.
Avec la particularité de cette présidentielle 2017, le nombre d'indécis est extrêmement important. Donc il y a aussi des gens qui peut-être vont faire leur choix demain soir ou à l'occasion d'autres débats, François Lanvin.
Sans doute, mais on n'a pas posé la question qui est certainement celle qui brûle les lèvres de nombreux téléspectateurs avant de regarder et après qu'ils aient regardé. Ça va être qui en a profité, qui peut gagner quelque chose à travers ce débat. Et c'est intéressant de voir que, me semble-t-il, tout le monde n'est pas à égalité en entrant dans ce débat.
Ah bah déjà, tout le monde n'est pas à égalité parce que tout le monde n'y participe pas.
Oui, ceux qui n'y sont pas, mais ceux qui y sont ne sont pas forcément à égalité compte tenu de leur positionnement politique ou de leur situation particulière. Je pense qu'il faudra observer.
C'est ça.
Il faudra observer assez finement quels seront le degré de précision des réponses d'Emmanuel Macron demain pendant ce débat, et aussi quelle sera l'attitude de tous les autres par rapport à la candidature de François Fillon.
Il y a 11 candidats à la présidentielle, ça vous choque qu'il n'y en ait que 5 demain sur le plateau de TF1 qui a fait son choix et qui respecte la loi, dit le Conseil d'État, puisque c'est l'équité qui prime et pas l'égalité des temps de parole.
Ça ne me choque pas, moi, tant mieux, ça va être le meilleur, honnêtement, à mon avis. Ça va être, pardon pour celui de France Télé qui va être sans doute formidable, mais en termes de
dramaturgie... Il y aura moins de pluralité d'opinion
En termes de dramaturgie, ça va être sans doute le plus simple à suivre. Et, enfin, je suis en même temps très sensible à ce que dit Cécile sur les travers possibles de cette culture-là. Mais honnêtement, je pense que ça va être un moment où on va regarder les candidats les plus crédibles, parce qu'il faut quand même dire le mot à un moment donné, les plus crédibles, parler entre eux, et ça me paraît être un très bon exercice.
Très rapidement, David Bourré.
Mais comme c'est une première, en fait, tout dépend de voir comment demain les candidats vont aborder cette épreuve et comment est-ce qu'ils vont ou pas se l'approprier.
Alors, il y a un candidat qui va arriver avec un nouveau slogan, c'est François Fillon. On l'a appris ce soir, son slogan jusqu'ici, c'était le courage de la vérité. Et aujourd'hui, sur Twitter, il nous annonce que son nouveau slogan, c'est une volonté pour la France, parce que le courage de la vérité avait été brocardé suite aux affaires, notamment les soupçons d'emploi fictif autour de sa famille. Ça traduit encore une fois les difficultés du candidat de la droite et d'une partie du centre, François Lanvin.
Ça traduit en tous les cas une capacité d'adaptation aux circonstances. C'est ce qu'on peut demander à un candidat à la présidence de la République.
Il sait rebondir, voilà. Il sait s'adapter au contexte.
Non mais c'est vrai que dans
contexte,
cette expérience, mis à part que ça fait un peu rigoler, qu'il enlève le mot vérité, mais ça c'est son problème. Par ailleurs, il y a quelque chose de vrai dans son nouveau slogan. Il a fait la preuve d'une incroyable
volonté pour la France.
Incroyable.
C'est indéniable. Merci. Merci à tous les quatre. Laurent Guez, directeur de la rédaction du Parisien Magazine. David Bouéré, du service économie et sociale de France Télévisions. Cécile Amar, journaliste politique à l'Obs. Et François Hernenwein, que vous lisez dans La Croix. Bonne soirée à tous. Jean-Mathieu Pernin sera là demain à 20h à nouveau pour les informer. Bonne soirée.